Dans notre monde moderne, l'impact de l'homme sur la nature est de plus en plus important. La perte de biodiversité, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau sont autant de problèmes environnementaux qui menacent notre planète. Vous écoutez l'épisode 63 du podcast Un Polyglotte, et aujourd'hui, on va voir que face à cette situation, certains défenseurs de l'environnement proposent une solution radicale, le rewilding. Alors avant de commencer, je tiens à remercier l'auditeur qui m'a suggéré le thème de l'épisode d'aujourd'hui. J'avoue que c'est un sujet dont j'avais déjà entendu parler, mais que je ne maîtrisais pas assez pour faire un épisode. Du coup, je me suis fait plein de documentaires et de vidéos sur le rewilding ou le réensauvagement pour préparer l'épisode. J'en ai regardé en anglais, en français, en espagnol pour tout comparer et surtout apprendre les bons termes en français, parce que des fois je maîtrise certains sujets en anglais, mais je connais pas bien le vocabulaire en français. Donc là, normalement, je vais être capable de bien m'exprimer. Qu'est-ce que le réensauvagement ? Je vais pas aller trop loin dans ma définition, j'ai vu une intervention d'un spécialiste français qui était super intéressante, mais il partait dans une vision plus holistique du réensauvagement. Il parlait du réensauvagement de la nature, mais aussi de l'être humain, du lâcher prise sur l'obsession de contrôle, etc. En gros, selon lui, tout part du fait qu'on a peur. Donc il y a trois manières de réagir à la peur, on peut fuir, on peut se battre, ou on peut être tétanisé ou bloqué et ne pas savoir quoi faire. Apparemment, il y a une étude qui a été réalisée sur des souris qui a montré que la peur pourrait être transmise aux futures générations. Alors dans le cas où on pourrait transposer ça à l'être humain, et je précise que c'est une hypothèse, on pourrait conclure que nous vivons dans une société qui a été grandement touchée par la peur. Beaucoup de guerres, d'attaques terroristes et d'incertitudes concernant l'économie et notre sécurité. Alors si on reprend les trois façons de réagir, certains vont vivre dans la peur et pratiquement l'accepter. D'autres vont se battre et agir. Par exemple, certains ont peur d'une guerre nucléaire et se construisent un bunker, ou d'autres vont s'enfuir, et on voit ça avec le phénomène off-grid en anglais. En fait, beaucoup de gens aiment partir de la société pour vivre dans une cabane loin des lois et des potentiels problèmes pour vivre en autonomie. D'ailleurs, je vous recommande de lire les livres Winter de Rick Bass et Walden de Henri David Thoreau si ça vous intéresse. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Bah en fait, selon cette personne, il faudrait lâcher prise et ne pas chercher le contrôle. Et ça fait partie du réensauvagement, revenir aux sources et ne pas se préoccuper de tout ça. Bien qu'un peu mystique, j'aime bien l'idée. En fait, je dis souvent que les gens nostalgiques vivent dans le passé, les gens anxieux vivent dans le futur et les gens heureux vivent dans le présent. Il y a un peu cette notion dans la méditation par exemple. Je vous mettrai le lien de son explication dans la description de l'épisode si vous voulez regarder la vidéo sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais uniquement parler du réensauvagement dans sa définition la plus classique. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le réensauvagement consiste à laisser la nature reprendre ses droits en introduisant des espèces animales et végétales dans des zones où elles ont disparu. Cette pratique permettrait de rétablir l'équilibre écologique, de favoriser la biodiversité et de lutter contre le réchauffement climatique. Le réensauvagement est une pratique qui a pour objectif de réintroduire des espèces animales et végétales dans leur environnement naturel. Ça peut se faire de différentes manières. Par exemple, en encourageant la croissance de certaines plantes, en réintroduisant des animaux qui ont disparu ou en créant de nouveaux habitats pour des espèces menacées. Le terme « rewilding » a été introduit aux États-Unis dans les années 90. Son application la plus exemplaire a été celle du parc naturel de Yellowstone. La réintroduction des loups qui avaient été éradiqués dans les années 20 dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis a permis de réguler la population des cerfs et de favoriser la croissance de la végétation. Le résultat a été le suivant. Plus de loups égale régulation des cerfs et autres cervidés qui causaient une pression trop forte sur la végétation. Du coup, ces cervidés ont été contraints de changer leurs emplacements et à moins manger certaines plantes qui poussent le long des rivières. Ça veut dire que les castors, qui aiment ces plantes, reviennent et que les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les insectes se multiplient à leur tour. Ça montre bien qu'une seule espèce serait en mesure d'entraîner des réactions en chaîne et ainsi bouleverser tout un écosystème. Un autre exemple intéressant en Europe est celui de la forêt de Białowieża en Pologne. Il s'agit d'une forêt qui n'a pas du tout été entretenue ou modifiée par l'homme depuis presque 100 ans. Donc en gros, cette forêt a été façonnée par la nature et les différentes espèces animales qui l'habitent. L'écosystème est quasi complet. Il y a des grands prédateurs comme des lynx, des loups, mais aussi des herbivores comme les élans, les cerfs, les bisons, les chevreuils et les sangliers. Un point hyper important, c'est qu'une forêt non nettoyée, ce que je veux dire par nettoyer, c'est qu'on ne va pas enlever le bois mort, les arbres tombés, etc. Bah ça fait que certaines espèces agissent différemment. Prenons le cas d'un cerf. Si on est dans une forêt où il y a un gros arbre mort tombé sur le sol, le cerf va avoir peur et se méfier, parce qu'il ne peut pas voir s'il y a un loup derrière qui l'attend. Et donc il va normalement éviter ce type d'endroit, ou alors il va être sur ses gardes. Le problème, c'est que le cas de la forêt de Białowieża, c'est un cas unique en Europe, et c'est le seul territoire qu'on puisse considérer comme encore sauvage. On ne peut pas s'attendre à un changement radical avec la réintroduction des loups en Europe, parce qu'il y a trop d'interventions humaines dans nos espaces verts. Les seules parties encore un peu sauvages en Europe sont dans le nord de la Scandinavie, dans les Alpes, un peu dans la péninsule ibérique, les Balkans et les Carpates. En France, des projets de réensauvagement ont permis de réintroduire des espèces comme le castor ou le lynx, ce qui a contribué à la restauration de l'écosystème, mais il y a encore beaucoup à faire et bon nombre de facteurs à prendre en compte. Il faut bien se rendre compte que les États-Unis comportent encore de nombreux espaces sauvages, du fait que l'histoire du pays est bien plus récente qu'en Europe. Au contraire, en Europe, pratiquement tous les espaces sont contrôlés par l'homme. Donc le concept de rewilding aux USA a tout son sens, puisqu'on peut espérer retrouver des paysages complètement sauvages et inaltérés par les humains. Cependant, en Europe, il faut trouver un modèle un peu différent, puisqu'il faut tenter de réensauvager des zones qui n'ont pas été pensées pour ça. En fait, le but n'est pas de protéger une nature passée, mais plutôt de créer une nature nouvelle. Ce modèle de rewilding peut être vu à Oostvaardersplassen, aux Pays-Bas. Désolé pour ma prononciation catastrophique. Là-bas, il y a une sorte de marais qui aurait pu disparaître parce que la végétation était en train de prendre le contrôle et de fermer l'accès à l'eau. Mais ils se sont rendus compte que les oies mangeaient les roseaux pour conserver un accès et ainsi rétablir une sorte d'équilibre entre la faune et la flore. Un système naturel est parfait, qui ne nécessite aucune intervention humaine. Alors ça peut paraître contradictoire avec le mouvement du rewilding, qu'on associe souvent à l'écologie, mais en fait, il faut penser que si on faisait absolument rien, il y aurait des forêts absolument partout sur le globe. La végétation se prolifère, et c'est pas forcément bon pour la faune et la flore. On recherche un écosystème et un équilibre. Ainsi, certaines espèces d'animaux peuvent façonner l'espace naturel pour qu'il soit propice au bon fonctionnement de l'écosystème. En fait, ce qui est intéressant avec le cas d'Oostvaardersplassen, c'est qu'on peut voir que la théorie de la forêt était fausse. Alors de quoi je parle? En gros, avant, on pensait que l'Europe était une forêt immense, avant l'agriculture et l'urbanisation. On pensait que la nature était maître et que les animaux s'adaptaient à la nature. Mais en réalité, on peut voir aux Pays-Bas que ce sont les animaux qui altèrent directement la nature pour créer un environnement qui leur convient. Du coup, dans ce marais des Pays-Bas, ils ont réintroduit quelques centaines d'herbivores et on compte désormais environ 5000 animaux. La régulation de ces animaux est faite par la quantité de végétaux disponibles et les hivers rudes. Chaque année, le nombre de ces herbivores peut chuter entre 30 et 60% avant de renouveler un cycle. Ce qui est fou, c'est que ces animaux ont une influence directe sur la végétation, mais aussi les insectes et les oiseaux. Tout est lié. Alors, il y a beaucoup de cas de rewilding différents. On a la réintroduction de certaines espèces dans la nature ou dans des parcs naturels, on a la création de zones propices au repeuplement de certaines espèces, mais on a aussi ce qu'on appelle la déprise agricole. Il s'agit de zones qui étaient des terres agricoles, qui sont maintenant délaissées. En fait, il y a de moins en moins de populations rurales. Il faut savoir que l'agriculture, pourtant si nécessaire, offre des revenus de moins en moins bons. Il y a donc moins de personnes qui veulent travailler dans ce domaine, et il y a donc des zones agricoles non utilisées. Actuellement, en Europe, on pense que ces zones réunies forment un territoire aussi vaste que l'Italie. Mais alors, pour aider les zones rurales, certains gouvernements proposent des aides pour encourager les gens à aller vivre là-bas et travailler dans des domaines liés à la vie sauvage. Il y a trois gros points bénéfiques concernant le réensauvagement. Il peut être bénéfique pour l'environnement de plusieurs façons. Tout d'abord, il permet de restaurer l'équilibre écologique en réintroduisant des espèces qui ont été chassées ou déplacées par les activités humaines. Ensuite, il contribue à la préservation de la biodiversité en permettant à des espèces menacées de se reproduire et de se développer dans leur habitat naturel. Enfin, le réensauvagement peut aider à lutter contre le changement climatique en favorisant la croissance de la végétation et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais la leçon qu'on peut tirer de la forêt polonaise et du marais hollandais, c'est que les animaux régulent eux-mêmes l'environnement et établissent un équilibre de la faune et de la flore. C'est un cycle perpétuel. Comme on dirait dans Le Roi Lion, c'est le cycle de la vie. Alors il y a un autre point important, l'argent. Le marais était sujet de débat car il fallait beaucoup d'argent pour entretenir cet espace. Mais maintenant, c'est gratuit. La réintroduction de ces herbivores a été extrêmement bénéfique et fonctionne en parfaite autonomie. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que ça semble logique. Laissons la nature faire son travail. Mais en Europe, on s'est habitué à avoir des paysages vides, et on trouve ça joli. On pourrait dire « quel beau théâtre, mais où sont les acteurs ?» Le problème, comme dans beaucoup de cas, c'est l'homme. On intervient beaucoup trop et on cherche à tout contrôler. Un exemple flagrant est celui des sangliers. Dans beaucoup d'endroits, on entend que certains jours, les chasseurs partent tuer des sangliers pour, je cite entre guillemets, « contrôler l'équilibre naturel parce qu'il y aurait trop de sangliers ». C'est faux. Si on réintroduisait d'autres espèces et qu'on laissait le temps à la nature de faire son travail, il n'y aurait aucun déséquilibre si on le fait bien et qu'on adopte un rôle de gestion et non de contrôle. Voyons voir les complications du réensauvagement. Le gros problème actuel, c'est que c'est pas aussi facile que ça à mettre en place. On peut pas juste réintroduire des animaux et attendre. En plus, certaines espèces sont en voie d'extinction, et il faut donc construire des zones de préservation pour repeupler ces espèces. En gros, on fait des zones qui sont uniquement pensées pour certains types d'animaux, mais c'est pas optimal pour d'autres espèces. C'est le cas de la réserve Haute Moor en Grande-Bretagne, où ils essaient de préserver deux espèces d'oiseaux qui allaient disparaître. Le truc, c'est que si on fait une erreur de calcul et qu'on introduit trop d'animaux d'une certaine espèce, on va créer un déséquilibre. Imaginez qu'on mette 100 loups dans une forêt où il y a 20 cerfs. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est important, dans le cas de l'Europe, d'utiliser le rewilding, mais de le contrôler de loin, de surveiller et de s'assurer que ça fonctionne bien. Autre complication, c'est le temps que ça prend. Quand on parle de mégafaune, c'est-à-dire un espace naturel où il y a beaucoup d'animaux et de nombreuses espèces, on peut s'attendre à une transformation de l'habitat en quelques semaines. Mais dans le cas de l'Europe et de ses zones désertes, il va falloir plusieurs années pour recréer une nature nouvelle et autonome. On ne peut pas penser comme pour le modèle de Yellowstone, où il s'agit plutôt d'une préservation d'un écosystème encore présent. Dans le cas européen, il faut tout refaire. Un autre concept qui vient s'ajouter à la complexité du rewilding, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on doit prendre conscience que ce ne sera jamais comme avant. Ce sera jamais un milieu complètement sauvage. Comme je le disais avant, on doit avoir un certain rôle. Après tout, c'est à nous de réintroduire des animaux et de choisir certains lieux. En gros, notre rôle, c'est la gestion de territoires sur lesquels on interviendrait le moins possible. Donc ce qui se passerait, et là on rentre dans un thème un peu plus philosophique, comme à chaque fois, c'est que ces animaux seraient entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. En fait, on pourrait avoir un animal dédomestiqué, avec des propriétés d'un animal sauvage. Donc dans ce cas de figure, il n'y a plus ces deux extrêmes, on arrive à quelque chose de plus homogène, mais là c'est juste une réflexion philosophique. Si on va encore plus loin dans la philosophie et les résultats du rewilding, on peut constater quelque chose de très préoccupant. L'être humain moderne n'a pas sa place dans l'écosystème. Si on voulait réellement retrouver un espace sauvage, massif, il faudra arrêter notre expansion, l'urbanisation, l'industrialisation, etc. Évidemment, c'est pas possible, mais c'est néanmoins fascinant de faire ce constat. Un autre conflit qu'on doit prendre en compte, c'est justement la relation de notre espèce avec le reste de la nature. Il est important de noter qu'on vit dans une société où l'économie est roi. Donc il faut proposer des plans de rewilding qui peuvent aussi générer de l'argent pour certaines populations. Par exemple, en réintroduisant des espèces animales dans des zones de déprise agricole, on peut faire parler de certains villages, qui gagneront peut-être en popularité, et verront plus de tourisme. Mais le problème, c'est que la cohabitation n'est pas toujours facile. Certains habitants ne sont pas contents parce que Les animaux peuvent altérer un territoire qui est maintenant contrôlé par les humains depuis longtemps. Donc est-ce qu'on a vraiment le droit de se plaindre que les animaux reprennent ce qu'on a volé? C'est encore un sujet qui fait débat. En gros, c'est difficile de faire accepter à la population le retour de la grande faune dans des zones où la faune avait disparu. Surtout qu'en Europe, comme je le disais au début de cet épisode, on n'a presque plus de territoire sauvage. Tout appartient à quelqu'un. Donc c'est difficile de promouvoir le rewilding et de dire à des agriculteurs ou autres personnes qui exploitent des territoires depuis plusieurs générations de partir. On peut pas simplement dégager les gens en leur disant « bon, bah, il faut redonner à la nature ce qu'on lui a pris ». En conclusion, le réensauvagement est une pratique controversée, mais qui peut avoir des effets positifs sur la nature. Mais est-ce que l'homme est prêt à cohabiter avec cette nouvelle faune? C'est un grand débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser sur le long terme. Il faut repenser la manière dont nous vivons, nos besoins et non nos caprices, et penser aux générations futures. Qui pourra profiter de tout le business qu'on génère en exploitant le territoire naturel, si la planète en souffre et que nos conditions climatiques deviennent de pire en pire? Ce sera difficile de changer de mentalité et de revenir un peu plus à nos origines et à notre histoire, mais c'est pourtant nécessaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires sur mpolyglotte.com. Et maintenant, on passe au vocabulaire. Je vous encourage de vous inscrire au club sur mon site pour accéder à la transcription des épisodes et aux explications de vocabulaire qui sont bien plus détaillées que ce que vous écoutez à la fin des épisodes. Ce sera bien plus facile pour créer vos flashcards. Merci à tous pour votre soutien. Éradiquer, exterminer, totalement supprimer. En anglais, on peut dire « eradicated » et en espagnol, on peut dire « erradicados ». Loup, c'est des mammifères carnivores de la famille des canidés. En anglais, on dit « wolves » et en espagnol, on dit « lobos ». Les cerfs, ce sont des mammifères herbivores de la famille des cervidés. En anglais, on dit « deer » et en espagnol, « ciervos ». Des castors, ce sont des mammifères herbivores semi-aquatiques de la famille des castoridés. En anglais, on dit beavers et en espagnol, on dit castores. Des oiseaux, des animaux vertébrés bipèdes, ovipares, à température constante, au corps couvert de plumes et possédant un bec sans dents. En anglais, on dit birds et en espagnol, on peut dire aves ou pájaros. Des poissons, ce sont des animaux aquatiques vertébrés à branchies, à nageoires et à écailles. En anglais, on dit fish et en espagnol, on dit peces. Des amphibiens, ce sont des animaux vertébrés à peau lisse qui vivent dans l'eau et sur terre et dont l'embryon se développe dans l'eau avant l'éclosion. En anglais, on dit amphibians et en espagnol, on peut dire amphibios. Les insectes, ce sont des animaux invertébrés dotés de 6 pattes, de 2 paires d'ailes, lorsqu'ils en ont, et d'un corps divisé en trois parties, tête, thorax et abdomen. En anglais, on dit insects, et en espagnol, insectos. Des réactions en chaîne. Alors ça, c'est un phénomène dans lequel une action provoque une série de réactions, chacune pouvant induire la suivante. En anglais, on peut dire chain reactions, et en espagnol, on peut dire reacciones en cadena. Bouleverser, ça veut dire perturber, changer profondément. Donc en anglais, on pourrait dire disrupt, et en espagnol, on pourrait dire « alterar profundamente ». Entretenu, ça veut dire soigné, maintenu, en bon état. Donc en anglais, le plus simple, c'est de dire « maintained » et en espagnol « mantenida » ou « mantenido » si c'est masculin. Le lynx, ce sont des mammifères carnivores de la famille des félidés de taille moyenne avec des oreilles à touffes de poils noirs. En anglais, lynx et en espagnol linces. Les élans, ce sont des grands mammifères herbivores de la famille des cervidés, présents dans les régions nordiques. En anglais, on dit moose et en espagnol, on pourrait dire alces. Voilà, si vous voulez d'autres explications de vocabulaire et avoir le texte sous les yeux parce que c'est beaucoup plus facile, eh bien encore une fois, vous pouvez avoir accès aux transcriptions et aux explications en rejoignant le club sur le site mpolyglotte.com.